Les puissantes techniques pour gagner du temps au quotidien. Les lois d'Asimov. Isaac Asimov. Cet auteur russe a beaucoup écrit en vulgarisation scientifique sur l'espace et la science. Passionné par la logique et la robotique, il a commencé à écrire de la science-fiction en 1950 en mettant des robots au centre de ses histoires. C'est ainsi qu'il a imaginé les trois lois que les robots devraient avoir de préprogrammées au plus profond de leur ADN numérique. Première loi, un robot ne peut ni porter atteinte à un être humain, ni le laisser exposé au danger en restant passif. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. Troisième loi, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Dans son roman de 1986, Les robots et l'Empire, deux robots imaginent une loi zéro, primordiale, qui dit « Un robot ne peut ni nuire à l'humanité, ni, restant passif, permettre que l'humanité souffre d'un mal. » C'est incroyable comme ces lois sont encore d'actualité et toujours aussi pertinentes presque 70 ans plus tard. Des ingénieurs en robotique s'accordent à dire qu'il faudrait d'ores et déjà les appliquer sur les intelligences artificielles que nous développons aujourd'hui, même si ces lois sont insuffisantes seules, comme l'a démontré lui-même Isaac Asimov dans un grand nombre de ses nouvelles. Il adorait créer des situations où les lois rentraient en contradiction ou en paradoxe, provoquant un bug chez les robots. Cette introduction sur les lois d'Asimov a pour but de vous parler de la technologie moderne dans son aspect positif. Il est trop facile de dénoncer le fait que la technologie moderne est chronophage en oubliant qu'elle peut aussi nous faire gagner du temps. Surtout pour l'ultime geek que je suis. La technologie est omniprésente dans ma vie, et ce n'est pas antinomique avec le fait que j'utilise un bugeot au quotidien. La technologie est aussi neutre que possible. C'est nous qui, individuellement, décidons de la rendre pratique ou chronophage, suivant notre utilisation. Nous réfléchissons depuis 1950 à donner des lois à l'intelligence numérique, mais nous sommes incapables de nous en imposer quand il s'agit d'utiliser cette même technologie raisonnablement. Un étrange paradoxe qui aurait plu à Asimov. L'avancée technologique exponentielle de ces 25 dernières années peut nous aider à accéder au temps infini plus rapidement que vous ne pourriez le penser. D'une part via son application directe, mais également grâce aux différents services associés qu'elle a générés au fil des années et avec les nouvelles manières de consommer. Avant d'utiliser un nouvel équipement technologique ou un nouveau service via une application, vous devez vous poser au moins deux questions qui agiront comme des lois quant à votre utilisation. Est-ce que cette technologie est assez éthique écologiquement et ou durable dans le temps? Est-ce que cette technologie va m'obliger à interagir avec elle à des moments que je n'ai pas choisis? Si la première réponse est oui et que la deuxième est non, vous pouvez alors considérer le gain de temps et de charge mentale rapporté au coût financier de cette technologie. Prenons l'exemple d'une machine à laver. Pas le plus écologique comme exemple, nous sommes d'accord. Lorsque vous envisagez cet achat, vous mettez le prix en compétition avec l'énergie physique dépensée versus le temps que vous allez gagner. Comme cette technologie est intégrée dans la grande majorité des foyers, vous ne la voyez plus comme une innovation. Il n'en reste pas moins qu'elle en est une. Si vous avez un doute sur un achat, calculez simplement le temps que vous dépensez par semaine sur la tâche qu'il va assurer pour vous. Notez également la valeur de votre temps. Multipliez votre valeur horaire par le temps que vous allez gagner, comparez ce résultat avec le montant de l'achat pour voir en combien de temps vous serez bénéficiaire de votre investissement. Pour plus de clarté, voici ce que cela donne avec un exemple fictif. J'envisage de me faire livrer le pain quotidiennement grâce à une application mobile. Si ce service existe un jour, vous penserez à moi. La livraison se fait à vélo. Écologie au top. À un horaire précis, pas besoin de mon attention en permanence sur l'application. Et cela occasionne un surcoût de 10 euros par semaine par rapport au prix du pain que j'achète moi-même chaque jour. Après calcul, il apparaît que le trajet aller-retour que j'effectue 7 jours sur 7 me prend 10 minutes et que le temps passé dans la boulangerie est en moyenne de 4 minutes. Chaque semaine, je consacre donc 1 heure et 38 minutes à la tâche liée au pain. Ma valeur horaire est de 7,72 euros. J'ai pris une référence standard, celle du SMIC en 2019. Ce qui veut dire que je dépense indirectement 12,60 euros de mon temps chaque semaine à me consacrer moi-même à cette tâche. 1h38 multiplié par le SMIC horaire en 2019. J'ai donc tout intérêt à me libérer de cette fonction pour soit être plus productif et donc économiser virtuellement 2,60 euros puisque je vais dépenser 10 euros dans l'application en plus du prix du pain, soit générer un autre temps libre ou non-temps dans ma semaine. Évidemment, cette décision n'est à prendre que si je ne considère pas ce moment quotidien comme un plaisir faisant partie de mon temps personnel. Pour certains achats, comme une machine à laver, le calcul est négatif sur une semaine, non rentable avant un long terme, voire très long terme. Mais vous pouvez aussi considérer que la charge mentale ou physique dont cet achat vous décharge vous permettra de vous concentrer sur des choses plus importantes dans votre vie personnelle ou professionnelle. Il s'agit dans ce cas d'un investissement. Ne négligez pas ce que vous offre la technologie. Elle fait office de renfort quotidien, mais elle peut aussi vous aider à parer l'urgence. Je suis, par exemple, utilisateur d'une application de conciergerie. Un abonnement mensuel très faible, moins de 10 euros, qui me permet d'avoir accès en permanence à une troupe de concierges à distance, prêtes à me dépanner en urgence dans tous les domaines. Mes trois dernières demandes ont été acheter et livrer un cadeau précis pour la première représentation d'un ami à laquelle je ne pouvais plus me rendre à la dernière minute. Me faire venir un coursier en urgence pour apporter un exemplaire de mon livre à la programmatrice de Michel Drucker, ce qui a contribué à ma première programmation dans Vivement Dimanche en décembre 2018. Me trouver un 4-sitter de confiance pour un départ improvisé à la dernière minute. Je me sers de ce service dans les urgences, les coups de feu, comme on dit en restauration. Dans ces moments-là, mes équipes sont occupées et ne sont pas expertes pour ma demande. Il faut que ce soit fait vite, mais bien réalisé. Je suis équipé chez moi, ainsi qu'au bureau, d'enceintes connectées à un service de musique en ligne. Où est mon gain de temps? Je ne me demande jamais où sont mes CD. Je n'ai pas à aller acheter les nouveaux albums que j'ai envie d'écouter. Je ne cherche pas dans mes playlists. Je change de musique en continuant ce que je faisais. Mais je gagne aussi du temps sur un grand nombre de petites actions. Je lance des minuteurs en ayant les mains dans la cuisine. Je demande le temps de trajet de mon prochain rendez-vous sans sortir mon téléphone. J'écoute les infos de trois radios d'affilée pour recouper et diversifier mes sources, etc. Un dernier exemple, j'ai investi au bureau dans trois prises électriques connectées à moins de 20 euros. L'une d'entre elles commande la bouilloire classique, l'autre un ventilateur classique et la dernière un chauffage électrique basique. Je ne passe plus mon temps à me lever et à faire des allers-retours pour allumer et éteindre tous ces équipements. Je le demande à mon enceinte connectée. Vous me rétorquerez que je me lève moins et je vous répondrai que je suis plus souvent debout, mais pour des choses plus stimulantes ou plus fun. Par ailleurs, le fait qu'il fasse trop chaud ou trop froid ne coupe plus ma concentration puisque je règle ce problème en une phrase à prononcer. Envisagez de déléguer ou d'investir à bon escient dans la technologie, mais en vous limitant à celle qui vous fera gagner du temps et qui ne vous en fera jamais perdre. Le pouvoir du non. Le oui et le non sont des mots aux pouvoirs incroyables. J'ai un ami qui a joué le jeu du yes man durant un mois entier. Il s'agissait de dire oui à tout ce qu'on lui demandait. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé à l'autre bout du monde en laissant son appartement à quelqu'un d'autre. Vous pouvez retrouver ses vidéos où il nous fait partager cette expérience hors norme sur YouTube à la page Autodisciple. Nous avons de plus en plus la culture du oui, mais pas au bon endroit et rarement dans l'action comme peut l'être l'expérience d'autodisciple. Nous utilisons plutôt des oui complaisants, évitant un sentiment négatif, mais dont nous ne tenons plus compte une fois le mot prononcé. Ce syndrome est amplifié chez les personnes empathiques dont je fais partie. Il m'était donc toujours très compliqué de blesser directement ou indirectement les personnes quand je discutais avec elles. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé rapidement à rendre des services à n'en plus pouvoir, à accepter d'accompagner des amis à des endroits qui ne m'intéressaient pas, à essayer de ne pas décevoir. C'est à la fin de mon lycée que j'ai vraiment pris conscience que c'était un gouffre sans fond. Les oui que je donnais ne m'offraient pas un crédit de bonté pour le futur, puisque le même malaise s'installait lorsque l'on me reposait une question à laquelle j'aurais dû dire non. Après avoir offert mon aide pour le déménagement très difficile d'une personne que je connaissais à peine, j'ai analysé mon empathie. C'est une caractéristique qui, observée sous un certain angle, ressemble étrangement à une forme de lâcheté. Et je dois bien l'admettre, c'était parfois par faiblesse, par lâcheté, que je n'osais pas dire non. J'appliquais aussi la technique du « repousse toujours ». Pour un service ou pour une entrevue qui m'incommodait, je proposais à la personne demandeuse de me relancer quelques semaines plus tard, quand je serais plus disponible. Et devinez ce qui se passait au bout de ces quelques semaines. Eh bien, la personne me relançait et je me retrouvais au point de départ, à repousser de nouveau. C'est illusoire de croire que l'autre va abandonner, puisqu'il n'a même pas conscience du combat que vous vivez. Voilà pourquoi vous allez peut-être devoir apprendre à dire non. Non est une réponse franche, démocratique, qui, si elle ne nous fait pas gagner de temps, nous évite bien souvent de perdre une heure supplémentaire potentielle. Lorsque l'on vous pose une question dont la réponse peut être oui ou non, alors l'autre est préparé à une réponse négative, en théorie bien sûr. Mais vous devez prendre cette théorie comme étant vraie, sinon quel serait l'intérêt de vous poser la question ? Autant vous donner directement un ordre. Car si on enlève la manière de demander et les formules de politesse, le fait de ne pas avoir le droit de refuser s'appelle ainsi. C'est une obligation, une convocation, une mission que l'on ne peut refuser. La bonne nouvelle est que vous êtes libre et autonome, et que vous avez le droit de refuser, de dire non, sans vous justifier durant des heures. Vous pouvez ne pas avoir envie et assumer cela. Si la personne en face de vous vous considère comme égoïste ou simplement pas sympathique, c'est un problème qui la concerne elle uniquement. Car ça n'est pas votre refus qui fait qui vous êtes. La personne s'est créée sa propre attente du oui et vous n'êtes pas concerné par ses émotions négatives liées à sa déception. Si la personne en profite pour vous formuler des reproches ou vous attaquer, vous aurez alors l'ultime confirmation que vous avez bien fait de dire non. Si vous n'êtes pas convaincu de cette légitimité que vous avez, je vais vous raconter le jour qui m'a aidé à comprendre cela. J'ai à peine 17 ans et je suis avec mon meilleur ami, Baptiste, un être humain formidable. Nous allons à la soirée d'une amie, sans but précis. Une soirée comme nous en faisons souvent, mais un peu plus organisée qu'à l'ordinaire. Peut-être y a-t-il eu une occasion spéciale, car il n'est pas concevable que l'on n'y aille pas. Mais parfois, en soirée, la magie n'est pas présente, et c'est le cas ici. Nous sommes arrivés il y a un petit moment et nous sommes une petite dizaine à nous regarder dans le blanc des yeux. Au bout d'une heure à peine, Baptiste se lève et prend ses affaires. Les autres lui demandent s'il compte partir. Il répond que oui. Ils lui demandent pourquoi. Et Baptiste répond calmement, mais franchement, cette phrase précise. Ben, on se fait chier quand même, je vais rentrer. Désolé pour le style. J'ai trouvé ça beau, dingue, courageux. J'étais en quasi-admiration pour ce que je pensais être un affront. Il en fallait de l'assurance pour oser se fâcher avec tout le monde ici. Baptiste est parti, et je suis resté, et nous avons continué à nous ennuyer. À la fin de la soirée, j'ai pu constater que personne n'était revenu sur le départ de Baptiste. Et aussi bizarre que ça pouvait me paraître, personne ne lui en tenait rigueur. Sur l'instant, peut-être que certains avaient mal perçu sa phrase, mais la réalité était là, on s'ennuyait. Personne ne pouvait le nier. En vouloir à Baptiste aurait été équivalent à s'en vouloir soi-même de ne pas avoir osé faire comme lui. C'est à cet instant que j'ai commencé à dire non quand j'allais dire oui par obligation, convention ou peur quelconque. Je n'ose pas quantifier le temps que j'ai gagné depuis lors.